12h09 sur les ondes de Fréquence Mistral, c'est l'heure du magazine de midi avec une petite dizaine de minutes de retard. Eh bien, c'est parce que aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle. 100 ans de radio, 40 ans de radio libre et 38 ans déjà pour Fréquence Mistral. Une émission proposée et présentée par Thierry Borde, président directeur de la radio de Fréquence Mistral. Bonjour Thierry.
Merci beaucoup Mathieu, seulement directeur, merci beaucoup. Merci pour cette introduction, pardon pour le retard, on profite, voilà, c'est les 40 ans de la radio, c'est de la radio libre, ce sont les 100 ans de la radio, et on profite encore pour faire des expérimentations, parce que la technologie nous permet aujourd'hui beaucoup de choses, et nous étions en train d'essayer de régler les difficultés du direct et des transmissions à distance. Veuillez nous en excuser. Alors cette émission spéciale, merci à tous et à toutes d'être avec nous pour cette occasion. Vous l'avez sans doute entendu, c'est difficile de passer à côté. La radio a 100 ans, la première diffusion, la première émission radio, c'était Radio Tour Eiffel en 1921. La radio a 40 ans, la radio libre a 40 ans, parce que la libération de la Bird FM, c'était en 1981. Et pour parler de tout ça, et pour parler aussi de faire un petit peu d'auto-satisfaction, d'auto-histoire, de parler de nous-mêmes un petit peu de temps à autre, on va parler de l'histoire de Fréquence Mistral à travers l'histoire des radios libres, à travers l'histoire des radios associatives et de la radio en général. On va en parler avec différentes personnes qui sont là avec nous autour de la table, dans le studio. François Malabave, créateur de la radio en 1983 de Fréquence Mistral et directeur historique de cette radio qui a pris sa retraite il y a peu de temps. Bonjour François.
Bonjour Thierry, ravi d'être ici pour ce bel anniversaire.
Absolument, qui est un petit peu le vôtre aussi. Christian, animateur dit Dun District Blues, je vais arriver à le dire. Christian, animateur depuis bien longtemps.
Je crains que tu dises trop longtemps.
Jamais je le dirai. Bonjour. Et puis aussi autour de nous, vous avez entendu Mathieu qui a lancé cette émission, qui est à la régie, merci, qui fait des prouesses et qui va en faire encore, je le sens, pendant cette émission. Et puis nous avons aussi Manoa Debande qui est stagiaire, elle vient de Lille et elle est stagiaire chez nous, elle est en filière de journalisme à l'Université de Lille et à l'ESJ, et Jalil Benferrat, qui lui est étudiant aussi en journalisme à l'IUT de Cannes. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Bonjour Thierry.
Bonjour Jalil. Voilà. Alors justement Jalil, on va commencer un petit peu par l'histoire de la radio. Tu fais partie des plus jeunes dans ce studio. L'histoire de la radio, qu'est-ce qu'on peut en retenir?
Alors, il y a 100 ans, en 1921, plus précisément le 26 novembre 1921, la première retransmission, en direct avait lieu. On aurait pu alors écouter de la musique dans concert et une Marseillaise. Mais pour arriver à ce résultat, c'est un long chemin que la radio a traversé, un chemin de découverte et d'innovation technologique. On fait un grand pas en arrière, nous sommes à la fin du 19e siècle et la transmission sans fil. L'ancêtre de la radio voit le jour grâce à des inventeurs de renom comme Nikola Tesla.
C'est pas une voiture ? Alors oui, Nikola Tesla, il y a eu d'autres noms, il y a eu Hertz, je crois que c'est la radioconductivité, des choses dans le genre. Et c'est vrai que la radio, les ondes radio qui transmettent du son, ça a d'abord été utilisé dans des applications très concrètes, la marine, les militaires. Et puis la première diffusion, Jalil vient de le dire, c'est la première émission, vraie émission radio, c'est Radio Tour Eiffel en 1921. Alors la radio a beaucoup évolué et a eu des rôles plus ou moins significatifs pendant l'histoire. Alors tout le monde a entendu parler de son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale où la radio, alors d'un côté il y avait une radio à Paris qui collaborait avec les Allemands et qui était là pour faire la propagande allemande, et puis de l'autre côté à Londres il y avait Radio Londres que tout le monde connaît. On peut en écouter juste une petite ambiance.
Radio Paris est allemand. Radio Paris est allemand. Ici,
Voici le sixième bulletin d'information de la BD. Alors,
voilà, qui n'a pas déjà entendu ces sons-là, ces sons, ben, sont emblématiques de la fonction, du rôle ou des rôles que peuvent prendre une radio selon son usage, selon son utilité. C'est un rôle extrêmement important, diffuse sur les ondes, en étant entendu par l'ensemble de la population potentiellement. Et ce rôle dans la Seconde Guerre mondiale est vraiment très significatif. D'un côté, effectivement, des Allemands qui essayent de convaincre tout le monde qu'ils sont les meilleurs. De l'autre côté, Radio Londres qui est là pour organiser la résistance. Et puis là, celui qu'on entend au micro et sur les ondes de Radio Londres, bah, c'était Pierre Dac, le grand humoriste qui avait lutté pour repartir à Londres et avoir son émission. Et ce fameux slogan Radio Paris-Mont, bah, c'était Pierre Dac. Alors Pierre Dac, c'était la Seconde Guerre mondiale. Après, la radio, évidemment, elle continue à évoluer, elle continue à se populariser. En France, par contre, elle reste un petit peu bloquée dans les fourches codines de l'État. Seuls peuvent émettre des radios d'État, des radios publiques. C'était Paris Inter, c'était l'ORTF, c'était tout ça. Et puis, mais pendant ces temps-là, les années 1950, les années 1960, il y a une appétence culturelle qui est énorme. Il y a de la musique nouvelle qui se produit dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, aux États-Unis. Tout le monde a envie de les entendre. On ne les entend pas sur les ondes françaises. Et puis, alors, on a envie de le faire quand même. Alors, ça a donné aussi ce qu'on a appelé des radios pirates. Voilà, là, on se mettait à diffuser de la radio, mais sans en avoir l'autorisation. Alors, plusieurs types de radios pirates sont advenus un petit peu plus tard dans l'histoire, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les radios périphériques. Périphériques, pourquoi ? Parce qu'elles s'étaient installées autour de la France, mais en dehors de la France, pour pouvoir diffuser en France, sur les grandes ondes. Alors ça, c'est les grandes radios qu'on connaît aujourd'hui, c'est RTL, qui émettait depuis le Luxembourg, Europe 1 depuis l'Allemagne, et puis Radio Monte Carlo depuis Monaco. Et puis à côté, il y avait des expériences comme ça qui se faisaient. Alors il y en a une très 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 connue, on a fait un film dessus, je crois que c'est Good Morning England que ça s'appelle. C'était Radio Caroline, qui émettait depuis les eaux internationales entre la France et l'Angleterre, de manière tout à fait illégale, avec plein d'aventures. Et ça a commencé en 1964. Et puis il y a d'autres radios pirates sur cette orientation musicale avec cette appétence culturelle, parce qu'on en avait besoin, la population en avait besoin. Donc cette pression qui se fait sur le pouvoir pour pouvoir faire de la radio, et puis la pression se fait aussi dans un autre axe qui est l'axe social, qui est l'axe de l'organisation des citoyens entre eux pour pouvoir en général lutter contre quelque chose. Alors on a eu des expériences de radio pirate à Fessenheim en Alsace, lorsqu'il s'est agi de construire la centrale nucléaire, ça s'appelait Radio Verte. Dans le Larzac, parce que dans le Larzac on voulait étendre le camp militaire pour pouvoir en faire des essais après la décolonisation, on avait besoin de grands terrains pour l'armée, et les habitants se sont réunis pour résister. Ils avaient monté Radio Larzac, et Radio Larzac existe toujours, elle fait partie des 700 radios associatives aujourd'hui encore. Et puis il y en a une qui est plus emblématique encore que toutes les autres, qui s'appelait Lorraine Cœur d'Acier. C'est dans les années 70, le bassin minier lorrain périclite, tout le monde est au chômage, le territoire meurt, et les habitants s'organisent autour des syndicats. Alors il y a eu d'abord la CFDT, puis ensuite la CGT qui monte cette radio qu'on a appelée Lorraine Cœur d'Acier, dont on peut entendre un tout petit peu aussi une illustration d'ambiance.
Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat, tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat, qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir.
Ça ne passe plus là.
C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ses émissions. Écoutez-la et faites-la écouter.
Et voilà, on a entendu, ça ne passe plus. Là, oui, la diffusion, c'était pas si évident à l'époque. Ça le reste toujours pas aujourd'hui. Mais encore moins à l'époque. Et la voix qu'on a entendue, c'est la voix de quelqu'un qui s'appelle Marcel Trias. Pour ceux qui ne connaissent pas Marcel Trias, on va y revenir avec François à côté. Mais ça a été un grand documentariste et c'est lui qui, effectivement, était la main ouvrière de Lorraine Cœur d'Acier. Et dans ce qu'on entend, dans ce qu'il dit, il y a déjà toute la définition de notre radio associative d'aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure. Ce qu'on fait, c'est de la communication sociale de proximité. Ça consiste à mettre ensemble tous les gens d'un territoire, de créer du lien entre eux, des échanges productifs et constructifs pour le territoire. Et c'est déjà ce qui se proposait là pour la défense de l'emploi à l'époque. Alors j'en profite parce que Marcel Trias, ce grand monsieur du documentaire, de la radio, de la télé, François, vous l'avez rencontré dans cette histoire.
Oui, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, Marcel Trias est décédé depuis 2-3 ans, me semble-t-il. Il était invité à intervenir lors d'une réunion je crois que c'était à Omé, très exactement, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est un grand monsieur. Un grand monsieur parce que, effectivement, vous l'avez dit, réalisateur de la télévision publique. Mais surtout, son premier poste, c'est celui d'animateur et journaliste de Radio Lorraine Cœur d'Acier en 77. Et cette voix qui est reconnaissable entre mille et qui distribue des informations extrêmement importantes. Effectivement, c'est toute la base d'une radio comme la nôtre, par exemple. C'est la défense d'un territoire, c'est la défense de ses habitants, c'est la défense d'une activité en toute indépendance et en même temps en agrégeant beaucoup de partenaires. En l'occurrence, il était salarié de la CGT, mais en même temps, il travaillait dans un studio qui était dans la mairie de l'endroit où il y avait leur studio. Leur émetteur était installé dans l'église.
Sur le clocher.
Sur le clocher de l'endroit où ils étaient installés. Et quand les CRS sont venus pour confisquer la radio, figurez-vous qu'il y a eu juste une petite annonce et il y a plus de 500 personnes qui sont venues interdire l'accès à la force publique de l'époque. On est dans un combat qu'on répétera pendant plusieurs années jusqu'en 1981 avec l'émergence des radios enfin officielles et donc des radios libres. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je parle de Marcel Trias parce que si j'ai fait ce métier de journaliste, c'est grâce à des gens comme Marcel Trias et des gens qui ont mis du sens dans ce métier plutôt que de passer les plats, d'essayer de faire avancer notre société. C'est ce que faisait Radio Lorraine Cœur d'Acier. Ça n'a pas empêché, malheureusement, la débâcle de la sidérurgie française. Mais enfin, les gens se sont levés et les gens étaient debout et ils étaient fiers.
Absolument, merci François. Et justement, donc, vous êtes passé en 1981, c'est la libération. C'est donc François Mitterrand qui est élu, qui décide de libérer la bande FM, comme on le dit. Certains disent libéraliser, il ne faut pas. On a libéré la bande FM. Et alors au début, toutes les radios sont associatives, comme on l'est toujours. C'est après que d'autres radios, d'autres que nous, décident de vouloir faire du commerce avec la radio, de la publicité. Et donc, on va avoir différentes catégories de radios, des radios commerciales, des radios de service public et des radios associatives. Et ça, ce sera défini par une loi, la loi sur l'audiovisuel en 1986. C'est celle qui nous régit aujourd'hui, particulièrement nous, les radios associatives, qui sommes très attentives à l'intérêt général. Et alors, mais entre-temps, il s'est passé plein de choses. Parce qu'entre 81 et 86, c'était peut-être un petit peu le bazar. François, qu'est-ce qui vous a pris, qu'est-ce qui vous est passé par la tête avec Emmanuel Boutrin, le président à l'époque, qu'on va entendre, j'espère, tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour créer une radio associative à Sisteron en 1983?
Alors, on n'était pas les seuls, Thierry. Il y avait toute une dynamique autour de nous disant il faut qu'on prenne la voix, tout simplement. Et vous écrivez comme vous voulez la voix. Et effectivement, on a créé une radio en 1983. C'est vrai qu'en 1981, en libérant la bande FM, qui était relativement nouvelle, et donc techniquement qui offrait notamment la stéréo, c'était très important pour de la musique, le gouvernement de l'époque, le gouvernement Mauroy, a fait un acte énorme. Mais en 82, il y a un plan de fréquence qui a été réalisé pour l'Île-de-France, c'est-à-dire pour Paris, où il y avait... C'était un sacré pataquès, hein, parce que toutes les radios pirates émettaient un peu n'importe comment, un peu n'importe où. Et évidemment, il fallait mettre de l'ordre. Et en 82-83, c'est la deuxième région, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc là, effectivement, un groupe de Sisteronais s'est dit, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et très exactement, le 4 mai 1983, des statuts ont été déposés à la sous-préfecture de Fort-Calquier, créant une radio qui, ben, c'est la radio que vous écoutez, c'est Fréquence Mistral. Donc ça va faire 38 ans, donc on n'est pas encore quadragénaire, on fêtera nos 40 ans dans 2 ans, et on fera une belle fête, je pense, à cette occasion-là. Mais disons que l'idée, c'était de faire parler le territoire et d'emprunter ce média qui était la radio. Il fallait tout faire. Il fallait tout faire.
Mais ça ne devait pas être évident. À l'époque, vous étiez jeune, vous n'aviez pas forcément beaucoup de moyens.
Merci. On n'avait pas de moyens, c'est vrai, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'envie. Donc, il fallait acheter un émetteur. On n'en trouvait pas en France. Hein.
Il fallait aller en Italie.
C'était pas très, très loin. Et puis, il fallait se familiariser avec des outils nouveaux. Ça s'appelait micro, table de mixage. Ça n'a rien à voir avec les outils qu'on a actuellement. Hein. Mais on se débrouillait, et puis il y avait surtout le plus important des radios associatives, et qui existe toujours, il y avait ce cœur qui battait, et qui faisait que on avait envie que ça fonctionne. On avait envie de parler de notre territoire, on avait envie de parler de notre activité, et de pouvoir donner aussi notre avis sur la situation politique, sociale, culturelle, évidemment diffuser notre propre musique. Ça aussi, on l'oublie, les radios qui sont nées, par exemple, je dis souvent, vous savez, Skyrock, qui ne diffuse pas particulièrement du rock, mais si elle est née dans ces années-là, et si elle porte ce nom, non pas de Sky, mais de rock, c'est parce qu'il n'y avait pas de rock sur les radios, sur France Inter, etc. On entendait très très peu de rock, un petit peu de yé-yé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, et je vois Christian qui acquiesce à côté, parce que c'est un fanat de musique, et effectivement, ça a été une respiration extraordinaire, tout d'un coup, pour les musiciens, de pouvoir écouter, de pouvoir produire de la musique, et de pouvoir évidemment organiser et créer par rapport à des médias qui nous étaient enfin offerts, enfin ouverts.
Justement, Christian, quel souvenir vous avez de cette période ?
Oh là 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 là, j'étais jeune. Presque, je préférerais oublier. C'est exactement ce que François vient de dire. C'est-à-dire que tout à coup, on s'ouvrait aux musiques, des musiques qu'on avait envie d'écouter, puisque, bon, l'yéyé, c'était déjà presque fini. Hein. Il y en avait encore, parce que la France était un peu en retard, on va dire. Il y avait plein de musiques qui sont venues à ce moment-là. Bon, je ne vais pas donner de nom, parce que je vais en oublier, sinon. Mais tous les gens qui ont fait la pop music, que ce soit Hendrix, que ce soit les autres, c'est là qu'on a commencé à les attraper. Hein. En vrai, j'allais dire. Et c'est une époque de liberté, je crois que tu l'as dit. Hein.
Et en même temps, pour les musiciens, c'était extrêmement important parce qu'on pouvait aller dans un studio alors qu'on était interdit de séjour, sauf si on faisait de la musique à la mode. Et là, tout d'un coup, on a eu une expression extrêmement importante, aussi bien au niveau de la chanson qu'au niveau des styles de musique. Et d'ailleurs, on le voit bien, à l'heure actuelle, il y a des grandes radios qui ont des studios d'enregistrement et de production qui permettent d'avoir des concerts en live. S'il n'y avait pas eu cette dynamique dès le départ, et il ne faut pas l'oublier parce que c'est ça qui a créé aussi cette dynamique des radios, c'est pas uniquement faire parler un territoire, c'est aussi faire jouer un territoire. Et ça, c'était important.
Et je crois ça aussi a influencé pas mal. À l'époque, en 1970, FIP n'existait pas. Et si FIP a existé par la suite, c'est une radio importante, FIP. Quand même, enfin, elle a joué un rôle majeur, je dirais, dans la transmission de certaines musiques, le jazz rock. Enfin, il y a eu une mode bande FM, musique FM. C'est eux qui l'ont inspiré. Et sans les radios libres, sans les gens qui avaient envie de faire vivre les choses et de faire écouter des trucs nouveaux, il y aurait beaucoup moins de choses, même dans l'espace public.
Alors, je vais couper cette conversation de passionnés qui commence, parce que je crois que si on vous laisse parler tous les deux à ce niveau-là, ça va durer très 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 longtemps. C'est pas fini. Et parce que justement aussi, on a un de vos acolytes de 1983 qui nous a rejoint, c'est notre président, c'est Emmanuel Boutrin, qui est toujours président de la radio. Il est depuis Marseille en direct dans nos studios. Emmanuel, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Fréquence Mistral. C'est un plaisir.
Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous. Est-ce que j'aurais envie de que vous nous disiez, vous étiez avec François à l'époque dont
il Alors là, parlé. Je ne vous entends plus.
Ça va arriver.
Voilà, alors ça arrive, il y a des petits décalages. Oui, pardon. Donc, François racontait 1983, Fréquence Mistral. Vous étiez là aussi, bien entendu. Vous faites partie des créateurs de cette radio. Quel souvenir ça vous a laissé en 83?
En 83, c'était, en ce qui concerne Fréquence Mistral, mais d'autres radios également, c'était une bataille pour obtenir la fréquence, puisque la première fréquence que nous avons eue à Sisteron, il a fallu vraiment se battre pour l'avoir, et ça a même provoqué, j'allais dire, au sein de l'équipe des créateurs de Fréquence Mistral, ça a provoqué des soucis, c'est normal, parce que une partie de l'équipe avait, c'est très intéressant, avait préféré déposer une deuxième demande de fréquence auprès de Catherine Tasca, qui à l'époque était la présidente de la haute autorité de l'audiovisuel, qui a été remplacée après bien des péripéties par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est très étonnant, mais Catherine Tasca n'avait pas très envie, pour des raisons que j'ignore, de donner une fréquence à Fréquence Mistral. En revanche, elle en avait donné une, enfin, il y a eu un projet alternatif à Fréquence Mistral qui s'est appelé Radio Galène, comme les postes à Galène, vous savez, et une partie de l'équipe bénévole, complètement bénévole à cette époque-là, on était tous très jeunes, est partie sur Radio Galène, qui est devenue ensuite Europe 2. Finalement, c'était le moment où 83, 84, 85, où les fréquences s'échangeaient, se rachetaient de manière un peu anarchique. C'est comme ça d'ailleurs, c'est très étonnant. C'est comme ça que les grands réseaux commerciaux ont réussi à mailler le territoire à l'aide des radios associatives qui finalement se vendaient, on va dire. Voilà. Et le projet de Radio Galène, finalement, ça a été très très vite, radio associative indépendante, comme Fréquence Mistral, mais ils sont, je ne sais pas comment utiliser le terme, en tout cas, ils ont très vite, ils se sont fait franchiser par Europe 2, qui est devenue, me semble-t-il, Virgin aujourd'hui. Voilà, donc c'est le groupe Lagardère. Derrière, il y a des trucs un peu politiques que j'ignore, des grands commerçants de digne, des sociétés d'assurance locales, nationales, enfin, il y a des choses. Et finalement, c'est assez intéressant parce que vous avez parlé tout à l'heure des différents types de radios. La naissance de toutes ces radios, entre 1904, avant bien sûr, 79, et jusqu'en 86, jusqu'à ce que tout ça se stabilise, ça a été un peu la foire, et la foire dans tous les sens du terme, finalement, puisque on arrêtait, on recommençait, et on se vendait entre nous, enfin, entre radio commerciale et radio associative, les fréquences se vendaient, voilà, au plus offrant, on va dire. Alors, l'équipe de Fréquence Mistral, c'était pas ça du tout, et François en est le premier témoin. L'équipe de Fréquence Mistral, on avait un très grand esprit d'indépendance, aussi bien au plan culturel et musical, et puis il y avait des gens parmi nous qui avaient des engagements syndicaux très forts, mais avec un grand esprit d'indépendance. C'est la caractéristique d'ailleurs des habitants des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Nous, la seule chose qui nous intéressait, on était jeunes, on sortait, on sortait à 4 ans près ou 5 ans près, on sortait du bac, on était étudiants. Ce qui nous intéressait, c'est de donner la parole aux gens et pas de rentrer dans une espèce de système, finalement. Voilà. C'est un peu toujours l'esprit qui nous anime, me semble-t-il. Voilà, c'est-à-dire que Fréquence Mistral s'est donné les moyens de garantir son indépendance. Et je voudrais saluer pour les jeunes qui sont autour de la table et les jeunes auditrices et les auditeurs, saluer des gens qui ont... François Malabar, évidemment, mais... Saluer des gens qui ont contribué à cette, ce choix qui a été fait, qui n'était pas facile, parce qu'au début, il n'y avait même pas de subvention. Hein. Ce choix de continuer la radio, continuer Fréquence Mistral, notamment Sylvain Rousselot, qui était un agriculteur, qui est toujours agriculteur, je crois qu'il est toujours sur l'Aimé, un petit peu au sud d'Aimé, c'était une coopérative fruitière. Ensuite, Olivier Guette, qui a été également président de la radio, moi j'en étais le secrétaire, mais Olivier Guette était un militant chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui avait fait abstraction de sa vie, c'était un menuisier, qui avait fait abstraction de sa vie personnelle pour le mettre au service des autres, et qui avait un atelier d'ébéniste à Sisteron, puis ensuite dans un petit village derrière le plateau de Valensole. Et ce garçon, cet homme qui est aujourd'hui décédé, a été pendant 2 ou 3 ans, nous a accompagnés pour maintenir cette radio dans un esprit d'indépendance. Alors, c'était un militant chrétien, mais qui était un peu, alors les jeunes connaissent mal ça, mais un peu dans l'esprit de la communauté de Lanza del Vasto. C'était pas hippie, mais c'était pas non plus des gens qui étaient dans le système. C'était des gens qui mettaient finalement leur savoir-faire, leur travail au service des autres.
Merci beaucoup Emmanuel, c'est beaucoup, c'est plein de souvenirs tout ça. Entre François, Emmanuel et Christian, je crois qu'on va pouvoir tenir l'après-midi en direct. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais alors justement, on va revenir à Sisteron en 83, de 83 jusqu'à maintenant. Il se trouve qu'il y a dans ces territoires des destinées, des chemins communs, parallèles, qui se croisent, qui vont en parallèle. Et donc Mathieu, si on peut écouter l'interview qui suit.
Daniel Spagnot, en 83, lors de votre premier mandat, vous n'avez pas hésité du tout à aider Fréquence Mistral à Sisteron à s'implanter à Sisteron. Pourquoi ?
Déjà parce que c'était une nouveauté. En 83, il n'y avait pas d'autre radio. En plus, elle était montée, cette radio, par des amis, par des Sisteronnais, je me souviens très très bien. Et donc, ils étaient venus me demander de les aider, de parrainer la radio. Je l'avais fait bien volontiers. Et je ne l'ai pas regretté parce que pendant de nombreuses années, encore aujourd'hui, la radio est toujours présente, elle fait un excellent travail. On a besoin d'avoir des radios comme ça de proximité, qui fait vivre le territoire, qui permet de faire des émissions, qui nous permet de nous connaître les uns par rapport aux autres, parce que autrement on n'écoute que les grandes radios ou les grandes télévisions nationales et on n'a pas du tout l'information du pays.
Cette volonté de vouloir s'exprimer dans votre ville, vous l'avez décidé, cette volonté de liberté également.
Oui, c'était une véritable liberté qui s'offrait à nous d'un coup. D'ailleurs, on le doit ça à M. François Mitterrand, le président de la République, qui, dès qu'il a été élu, a permis justement à toutes ces radios de pouvoir s'exprimer. On a eu un vent de liberté d'un coup, parce qu'avant, tout était très réglementé. Et moi, je fais partie des maires qui en ont profité de cette liberté. Et puis, en même temps, j'ai estimé que c'était le moment ou jamais de jouer le jeu et d'aider toutes ces radios, ces journaux, même des journaux locaux qui n'existaient pas, qui du jour au lendemain ont été édités, des télévisions ensuite locales également. Et d'un coup, on a eu l'impression qu'enfin, on comptait. Parce qu'avant, on ne comptait pas, puisqu'on dépendait de Paris. Et là, du jour au lendemain, eh bien, on s'est dit, tiens, ben, le territoire, il compte. Finalement, on n'est pas si oublié que ça.
Daniel Spagnot, les années ont passé, Fréquence Mistral est toujours là, à Sisteron. Quel regard vous portez sur cette radio locale ?
Écoutez, j'ai un regard très positif parce que c'est une radio qui est toujours là, oui, comme moi, puisque j'ai été élu moi aussi en 83, donc on a le même nombre d'années d'existence en mandat, puisque moi je suis maire depuis 83, la radio existe depuis 83, et ben, je dois dire que puisqu'elle a fait du bon travail, puisque les élus, les auditeurs ont été contents, et ben, elle est toujours là. Elle fonctionne toujours, alors qu'il y en a d'autres radios qui ont fonctionné 3 ou 4 ans et qui ont disparu. Eh bien, Fréquence Mistral est toujours là. Voilà, vous savez, quand on joue la qualité, quand on respecte toutes les opinions politiques, ça a été le cas de Fréquence Mistral, et que quand on respecte les auditeurs, eh bien, on tient le coup, et on est encore là 38 ans après. Donc, bravo, et merci pour tout ce magnifique travail qui a été fait pour mettre en valeur nos beaux territoires.
Voilà, Daniel Spagnou, maire de Sisteron, encore aujourd'hui maire, qui est devenu maire en 1983, en même temps que la naissance de la radio. François, ça vous dit plein de choses, ça?
Ah, ça me dit énormément de choses. En même temps, ça me permet de saluer Daniel Spagnou, effectivement, et l'aide qu'il nous fournit. Je me souviens de directeur de caisse d'épargne à Sisteron, c'était son métier, Daniel Spagnou. On est allé le voir avec Emmanuel Boutrin, parce qu'avant que les subventions arrivent, vous savez, c'est toujours délicat. Et c'était les premières subventions, donc j'étais salarié à l'époque et j'avais pas pu être payé, c'était un peu compliqué. Et on a dit à Daniel Spagnou, on lui a dit, monsieur le directeur de Caisse d'Épargne, est-ce qu'il est possible de nous aider avec un prêt? Et tout de suite, Daniel Spagnou a mis sur la table 100 000 francs, ce qui était très, très important à l'époque, hein, 15 000 euros. Ça a permis tout simplement d'assurer la liaison. Et je pense que si on est là aujourd'hui à pouvoir parler dans un studio, c'est parce que c'est 100 000 francs. Voilà. Donc je voulais à la fois profiter une fois encore de remercier Daniel Spagnou pour cet acte. J'ajoute en même temps que vous savez qu'on est farouchement indépendant. Jamais Daniel Spagnou nous a demandé de dire ceci ou de faire cela à l'antenne. Et ça, c'est très important. Parce que surtout au début où on commençait, où on démarrait, donc quand on veut être indépendant, vous savez, c'est difficile, hein, dans ces territoires ruraux. Actuellement, c'est beaucoup plus simple, puisque maintenant, l'outil est là, il a pignon sur rue, il y a 7 studios qui sont installés, et donc c'est plus facile. Mais à l'époque, c'était pas évident du tout. Et Daniel Spagnou était assez ouvert pour pouvoir nous dire... Eh bien, continuer à activer et faire exactement ce qu'il a dit, à servir le territoire, à faire parler les Sisteronais, et on continue.
Et on continue, et je pense qu'effectivement c'est un message plein d'émotions pour vous. Et puis c'est aussi un petit peu le symbole, Daniel Spagnou et vous, à l'époque où vous créez la radio, c'est pas forcément les mêmes approches idéologiques. Et puis finalement, aujourd'hui, tout le monde a fait depuis 40 ans, depuis 38 ans, tout le monde se réunit, converge autour de l'intérêt général, autour de l'intérêt des territoires que tout le monde aime et défend, qu'on soit élu, qu'on soit radio, qu'on soit simple citoyen. Et c'est, enfin voilà, c'est toute la beauté de ce message, en même temps que celle de Marcel Trillat qu'on écoutait tout à l'heure. Et alors, je vous propose de rester à Sisteron, mais d'avancer un tout petit peu dans la chronologie de la radio. On passe un petit peu après 83. Et puis, on va écouter quelqu'un qui s'appelle, que vous connaissez bien, François, évidemment, qui va parler de vous, d'ailleurs, qui s'appelle Patrice Verneil, qui a été un élément essentiel pour le développement de la radio à Sisteron, je crois.
Patrice Vernet, est-ce que le terme de pionnier vous définit au cœur même de Fréquence Mistral Sisteron?
Pionnier au terme de Fréquence Mistral, peut-être pas quand même, parce que je suis arrivé en 94 et que Fréquence Mistral est né le 5 mai 1983. Maintenant, pionnier du monde de la radio associative, je crois qu'on peut quand même le dire, parce que, tout simplement, j'ai commencé à animer à l'âge de 11 ans. En 1982, dans une radio qui s'appelait à l'époque Radio Bignosque, Fréquence 4, Radio Clean, à Aubignosque donc, et ouais, ça fait quand même quelques années, mine de rien, c'est impressionnant quand on en parle, ouais.
Le temps a passé, effectivement. Patrice, vous étiez aux prémices vraiment de Fréquence Mistral Sisteron. Comment ça a démarré? Comment ça s'est passé? Et vous, comment vous l'avez vécu?
Alors, Fréquence Mistral Sisteron a vécu durant de nombreuses années avec une équipe qui était dirigée par Sylvie Eliès à l'époque, moi, quand je suis arrivé. Il y avait à peu près 7 animateurs en même temps, 7 personnes qui travaillaient au sein de la radio. C'était vraiment à l'ancienne, hein, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Elle était à rue Chapuzy, sauf que les années passant, la radio a commencé un peu à décliner et elle a fermé pour mieux repartir du côté de Manosque. En 2003, me semble-t-il, après les années, peut-être, elle commence à s'égrener et donc ça commence à devenir un petit peu difficile de se souvenir exactement. Mais en 2003, François Malabave, que vous connaissez, directeur de Fréquence Mistral en son temps, qui vient de prendre sa retraite, m'appelle en me disant, Patrice, voilà, on veut relancer Sisteron maintenant que Manosque est bien reparti. On veut relancer Sisteron et on pensait à toi pour prendre en charge la destinée de Fréquence Mistral, Sisteron. ce que j'ai accepté. Ça a été très très dur au départ parce que c'était le début vraiment de l'internet, de la diffusion par internet, et donc allez, on va dire que l'ordinateur il plantait 3 fois par jour. On passait plus de temps sur la route à aller le remettre en charge l'ordinateur. Enfin bon, c'était vraiment les prémices. Oui, on peut parler de prémices à ce moment-là. Et puis petit à petit, donc au départ c'était un ordinateur, puis après on a remis une platine, on a remis un CD, on a remis une table de mixage, et on est arrivé petit à petit avec Henri, le fameux Henri qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, qui faisait avec son fils une émission en bénévolat, et on est arrivé à relancer des émissions à Sisteron. Allez, on va dire qu'on est en 2006, et puis après en 2009 le grand virage avec toutes les radios qui commencent un peu à se développer, et voilà, ici ça a été l'antenne placebo, ou je sais pas comment on peut dire, du réseau. En fait, finalement, c'est le début du réseau de Fréquence Mistral qu'on connaît aujourd'hui, avec Digne, Briançon, Gap, avec il y en a d'autres, il y a même Monaco maintenant, et ça, voilà, c'est vraiment une belle histoire, je crois.
Patrice, au début, vous y avez tout de suite mis toute votre énergie, votre cœur, votre enthousiasme. Cette flamme, elle a été récompensée parce que très vite, vous avez été le responsable de Fréquence Mistral Sisteron.
Alors, tu voulais que je le dise, et je vais le dire. C'est vrai que quand on travaille dans une radio associative, et tous ceux qui ont travaillé dans une radio associative, qu'ils soient bénévoles ou rémunérés pour ça, c'est des touches à tout. Il faut savoir tout faire, surtout quand on crée un nouveau réseau, quelque chose qu'en fait qui n'existait pas. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment presque tous les jours se réinventer, arriver à comprendre pourquoi telle chose plantait, pourquoi là ça émettait, mais pas ce qu'il fallait. Donc voilà, tous les jours il a fallu résoudre une équation et passer à la suivante. Et ça a été pendant plusieurs années mon job de tous les jours, en plus de l'émission, et après des relances, des interviews sur le terrain. Il faut savoir quand même que il y a eu une période où on faisait plus de 200 reportages à l'année sur Sisteron, rien qu'à Sisteron, et pour le dire, j'étais tout seul.
Alors tout seul, côté régie, côté technique, côté journaliste, côté animateur également, le bidouillage comme on dit, hein, sans que ce soit péjoratif du tout, hein, ça vous connaît par cœur, il fallait que tout marche, les émetteurs également, tout un registre à connaître.
J'étais chiant et j'avais du monde quand même autour de moi, notamment Pascal, paix à son âme. Il n'y avait pas un jour sans que je l'appelle. Pascal, il faut que tu viennes. Il était à Manosque. Hein. Franchement, Pascal, s'il n'avait pas été là, je crois que Fréquence Mistral ne serait pas là aujourd'hui non plus. Hein. Voilà, il y a des gars comme ça qui permettent à des radios comme Fréquence Mistral de vivre. Mais quand même, la radio associative, c'est un autre monde, c'est de la passion, c'est du rêve. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de vendre de la publicité ou quoi. Il en faut aussi, bien évidemment. Mais c'est quoi ? C'est le cœur qui parle dans une radio associative. Voilà, c'est le cœur. Et en fait, dans une radio associative, comme les Fréquences Mistral, je crois qu'on apprend tous les jours.
On apprend tous les jours, ça c'est bien vrai. Ce que dit Patrice, François, ça vous rappelle beaucoup de souvenirs, Patrice Vernet, à cette époque-là.
D'abord, d'écouter la voix de Patrice, c'est toujours un plaisir, un bonheur, évidemment, ça me rappelle beaucoup de choses. Il y a eu aussi, depuis l'intervention d'Emmanuel et puis Patrice, il y a un défilé des ombres, malheureusement, des gens qui nous ont quittés. Emmanuel a parlé d'Olivier Guette, notre ancien président, il y a aussi Marcel Dunant, qui était un administrateur important. Évidemment, Pascal, notre ami Pascal, qui était un technicien important, et puis il y a Anne aussi qui nous a quittés, et puis Florent qui a lui raté sa sortie, malheureusement, mais bon, c'est donc une histoire de personne, la radio aussi, c'est très important. Et ce que disait Patrice est important, parce qu'effectivement, donc c'est au niveau des dates, c'est pas tout à fait ça, mais en 2003, effectivement, quand Patrice est revenu après un passage dans les années 90 dans la radio, et enfin, il y avait une révolution dans ce territoire rural qui s'appelait l'ADSL. Vous imaginez pas ce que ça voulait dire pour nous. Mais ça voulait dire qu'on pouvait lier le studio de Manosque avec celui de Sisteron et faire ce qu'on fait maintenant quotidiennement et ce qu'on fait actuellement avec Marseille, par exemple, à une puissance bien plus supérieure. Mais à l'époque, c'était une révolution et donc on a relancé notre studio de Sisteron, et c'est donc Patrice qui a été à la charge de cette relance, avec une mission toute simple, c'était de dire, est-ce qu'on est capable, depuis Manosque, de gérer aussi un territoire à l'extérieur, qui est à 50 km, qui s'appelle Sisteron. Ce schéma, c'est le schéma que nous avons mis en place après, en 2007 et en 2008, pour développer Digne, Castellane, Briançon, Gap, c'est tout, puisqu'il y avait Sisteron et Manosque, Et après, évidemment, maintenant, Marseille, bientôt Avignon, enfin, Thierry, vous allez en parler tout à l'heure. Mais c'est une... disons que l'ADSL nous a donné des ailes. Tiens, c'est joli.
Merci beaucoup, François. C'est un très joli mot, effectivement. L'ADSL qui donne des ailes, bientôt on est dans la 5G, on va s'envoler complètement. Voilà. Alors, peut-être une question qui va s'adresser plus particulièrement à Emmanuel Boutrin. On a fait tous les débuts de la radio, et puis on a dit tout à l'heure, notre radio aujourd'hui, elle fait de l'intérêt général. On est dans une catégorie de radio, des radios associatives très, c'est très spécifique une radio associative. On n'a pas le droit de faire beaucoup de publicité, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et nous, on n'en fait vraiment pas beaucoup. On a par contre le droit justement de rester libre, de rester indépendant, de passer la musique qu'on a envie de passer, y compris si elle est de qualité, y compris si elle rapporte pas beaucoup d'argent. Ça nous donne beaucoup de liberté. En même temps, c'est vrai que c'est des modèles économiques très particuliers, particuliers parce qu'ils dépendent de subventions qui viennent de l'État, du ministère de la Culture. Et tout ça, ça date de 1986. 1986, Emmanuel Boutrin, c'est la loi sur l'audiovisuel qui régit tout le paysage radio, télé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a apporté au paysage radiophonique, cette loi de 86 et cet article précis sur la communication sociale de proximité ?
C'est très simple, merci. Ça a apporté la stabilité... et la possibilité pour les radios libres, les radios associatives, d'avoir ce qu'on appelle une part significative de la ressource hertzienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc pour les auditrices et les auditeurs de Fréquence Mistral ? Ça veut dire tout simplement que cette loi de 86 permet de conserver une partie des fréquences, d'attribuer une partie des fréquences hertziennes aux radios associatives. C'est l'article 29 de la loi de 86. C'est très innovant parce que c'est une loi qui, dans le monde, est précurseur d'une situation qui est relativement limitée aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas un quart des pays au monde qui fait bénéficier les radios à caractère non lucratif d'une obligation de conserver une part significative, j'allais dire petite, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis petite, des fréquences. Et c'est comme ça que Fréquence Mistral a eu sa fréquence, donc son autorisation, c'est un processus assez compliqué, hein, c'est pas simple, et a eu également d'autres fréquences dans la région dont vous avez fait état. Donc c'est une loi qui stabilise et qui protège. Alors, elle protège particulièrement les radios associatives parce que, au travers des exemples que nous avons vus tout à l'heure, et même de la première histoire de Fréquence Mistral en 83-84, on s'aperçoit que c'était un peu la foire d'empoigne et la vente des fréquences. Aujourd'hui, depuis 86, on n'a plus le droit de faire ça. Quand on n'émet plus, quand on s'arrête d'émettre, quand une radio commerciale fait faillite, elle est obligée de rendre sa fréquence. Et pour les auditrices et les auditeurs, de Fréquence Mistral, il faut savoir une chose, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on émet, que c'est vachement facile, il suffit d'avoir un émetteur, c'est comme un talkie-walkie ou un téléphone portable et on peut se parler, on peut émettre. C'est pas ça du tout. Le spectre qui est attribué aux radios FM permet à peu près par zone de territoire entre 20 et 35 fréquences. Donc ça veut dire que la place est extrêmement limitée. Et donc la ressource est chère, elle est rare et elle est chère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mais je crois que on en parlera tout à l'heure, on peut évoquer d'autres types de diffusion, y compris hertzienne, c'est ce qu'on appelle le DAB+, c'est la radio numérique sur laquelle on peut se développer et intervenir en hertzien, et on peut également diffuser nos productions sur Internet, on le verra, notamment en complémentarité avec la radio. Donc, cette loi, c'est la stabilisation, la protection, c'est aussi la protection des auditrices et des auditeurs. Parce que dans cette loi de 86, elle émet des autorisations et des obligations en creux, et notamment en termes de contenu. Par exemple, elle fixe, en plus de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, elle fixe des limites et des obligations en matière de liberté d'expression. Et à mon avis, en tout cas, c'est une fonction essentielle aujourd'hui du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par exemple, les radios, qu'elles soient associatives ou commerciales ou du service public, n'ont pas le droit de faire, comme aux États-Unis ça peut se faire par exemple, la promotion de certaines opinions à l'antenne. Nous n'en avons pas le droit et nous serions sanctionnés si nous le faisions, par exemple la discrimination envers de genre, la discrimination, le racisme, voilà, on n'a pas le droit, c'est interdit. Donc le CSA, depuis la loi de 86, joue également le rôle de pare-feu par rapport au contenu des radios associatives, évidemment, mais pas que, commerciales et de services publics.
Merci encore Emmanuel. Cette loi de 86 est aussi particulièrement importante pour les radios associatives parce que c'est elle qui fixe effectivement cette notion de communication sociale de proximité qui nous motive tous les jours à faire notre travail radiophonique. Cette communication sociale de proximité, elle est entendue comme le fait de créer du lien, mais aussi de favoriser l'expression culturelle, de favoriser l'éducation. Nous sommes des acteurs d'éducation populaire, nous avons aussi des actions éducatives, éducation aux médias, ateliers radiophoniques avec des jeunes, avec des moins jeunes. C'est une mission qui nous mène à favoriser les messages pour la protection de l'environnement, par exemple, pour le développement local de nos territoires. Et aussi, vous en parliez, Emmanuel, de faire beaucoup de sensibilisation en faveur de la lutte contre toutes les discriminations. Ce sont nos rôles principaux que cette loi de 86 nous donne en tant que radio associative. Et alors justement, Emmanuel, on va rester deux secondes avec vous. Avec rapidement peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire, parce que vous êtes président de Fréquence Mistral, mais vous n'êtes pas que cela, on le disait tout à l'heure, vous êtes président du Syndicat National des Radios Libres que vous avez vous-même, avec d'autres nombreuses radios naturellement créées. Vous êtes aussi président de l'Association Mondiale des Associations de Radiodiffuseurs Communautaires, la LAMARC, qui réunit toutes les radios associatives du monde, communautaires du monde. Vous vous êtes lancé à corps perdu dans la construction collective pour défendre nos radios. Pourquoi ?
Si c'est une question à titre personnel, je ne sais pas répondre. Si c'est une question plus globale, parce qu'il faut... on disait tout à l'heure que les radios associatives ont à la fois des droits en France et des devoirs, en France et dans le monde d'ailleurs. Donc elles ont aussi des devoirs et elles ont aussi une fonction. Et cette fonction, d'ailleurs, est reconnue par les instances internationales, et notamment une agence de l'ONU qui est l'UNESCO. Et ce sont des fonctions qui sont à la fois de diversité, de pluralisme et de liberté d'expression, mais aussi, de plus en plus, je voudrais insister là-dessus, de protection des populations. Alors, quand on dit de sécurité des familles et des enfants. Alors, quand on parle de ça, on dit, en France, il n'y a pas de souci, tout le monde, il est protégé, il y a tout, il y a la police qui est là pour ça. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Quand on parle de maltraitance sur les femmes et les enfants, en France, c'est pareil que partout dans le monde, il y a le rôle des médias à assumer. Et bien, ce rôle des médias, nous, Radio Associative, Fréquence Mistral entre autres, mais les 700 radios associatives, veulent et doivent l'assumer. Voilà. Donc, nous, on y tient beaucoup à cette fonction-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en contrepartie, puisque nous avons un rôle d'utilité sociale, nous réclamons des subventions publiques. C'est pour ça que ces associations, comme le Syndicat National des Radios Libres ou l'Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, LAMARC, existent. C'est pour défendre et promouvoir ce type particulier des radios associatives qui ne va pas seulement avec des obligations en creux. Ne pas faire de discours raciste, ça s'applique à toutes les radios, ça on est d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on fait la promotion des activités, des actions par exemple, sur le racisme antiraciste. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux surtout et qu'on est des béni-oui à tout ce qui se passe. Ça veut dire que nous avons un rôle, comme vous l'avez très bien dit Thierry et François, d'éducation populaire. Je donnerai un autre exemple. Les discriminations, c'est quelque chose de fondamental. Nous avons un rôle particulier en matière de lutte contre les discriminations, pas seulement les discriminations de genre, mais par exemple les discriminations qui sont liées au handicap. Regardez, par rapport aux radios commerciales, quand vous avez des animateurs d'une brutalité et d'une bêtise innommable, dans les années avant d'être mis en garde justement par le Conseil supérieur audiovisuel, qui faisait des blagues, j'ai un souvenir très brûlant en 2012, qui faisait des blagues sur les handicapés qui allaient à la plage, par exemple, et qui rigolaient là-dessus, etc. C'est interdit. Eh bien, nous luttons contre ça. Ça veut dire que non seulement toutes les radios ont des obligations, il y en a qui s'en affranchissent parce qu'ils laissent le micro ouvert à n'importe qui. Je ne parle pas du public, là. Hein. Je parle des animateurs, des professionnels de radio commerciale. Je ne dis pas que les animateurs de radio commerciale sont tous des imbéciles. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire qu'il y a des dérapages aussi. Eh bien, nous, c'est l'inverse. On est en positif par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va justement faire attention au départ à notre contenu de telle façon à avoir un discours inclusif plutôt qu'un discours, même sous forme de boutade et d'humour débile, graveleux, inutile et triste. Eh bien, nous allons au contraire avoir un discours positif par rapport à l'insertion, à la nécessité de l'insertion des handicapés dans la société, mais également, et vous le savez, et je tiens à féliciter toute l'équipe de Fréquence Mistral, à l'intérieur même de notre équipe.
Merci Emmanuel. À nouveau, effectivement, ce rôle des radios en France, dans le monde, c'est un rôle essentiel. Vous avez cité tout à l'heure l'UNESCO. Tout le monde connaît l'UNESCO. C'est la défense des droits des cultures, des enfants partout dans le monde. Et l'UNESCO promeut la radio, alors qu'on appelle en France associative, dans le monde communautaire, mais en tout cas la radio comme un outil de développement essentiel, et particulièrement, notamment, dans les zones les plus touchées par des catastrophes naturelles, par des guerres, etc. La radio, c'est finalement l'outil le plus simple, le plus léger, puis le plus oral qui soit pour transmettre les informations en temps réel et qui permettent parfois de sauver des populations entières. Donc effectivement, la radio, c'est une place à préserver. Les fréquences radio sont des choses à préserver pour que effectivement ce travail puisse continuer à se faire dans toute situation. Vous avez parlé de donner la parole à n'importe qui. Ben alors justement, en radio associative, on la donne à n'importe qui. Non, c'est pas vrai. On la donne à tout le monde, mais pas n'importe comment. Et surtout pas n'importe comment, parce que la parole média, c'est aussi une parole à tendance journalistique. Et comme vous le disiez, Emmanuel, on ne fait pas n'importe quoi à l'antenne. Mais ça n'empêche que il y a, dans les radios que vous avez pu citer peut-être, de nombreuses personnes qui se targuent de professionnalisme, etc. Mais le professionnalisme n'est pas toujours ce qu'on croit, parce qu'on peut être des amateurs passionnés et éclairés, et avec une qualité parfois bien meilleure que celle des professionnels. Alors je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, Christian. Mon regard se tourne vers vous.
Tu vas me faire rougir.
Voilà, mais en tout cas, Christian, avec son équipe, que ce soit dans EDB, Eden District Blues, qui se préoccupe, comme son nom l'indique, de blues, ou comme dans Combo Jazz, que vous animez aussi, avec vos collègues, ce sont deux émissions bénévoles, c'est emblématique de Fréquence Mistral, on vous retrouve tous les vendredis soirs en direct. Ce sont des émissions absolument bénévoles, mais ce sont des émissions merveilleuses, d'une grande qualité. Ça, je tenais à le dire d'abord et avant tout. La radio, pour vous, c'est une grande aventure qui a commencé déjà il y a quelques temps.
Oui, on a commencé en 2003, je crois, hein, François. C'est François qui est venu nous chercher. Voilà, on a commencé en 2003, puis on savait pas trop où on allait, parce que c'était une proposition, et c'était un média dont qu'on n'avait jamais approché, finalement. Et puis le temps venant, et on a fini par s'apercevoir que, en tout cas pour ce qui nous concernait, vu qu'on est de ce côté-là du micro, c'est absolument merveilleux de pouvoir s'exprimer, de parler de ce qu'on aime, et ça permet également d'aller plus loin, et puis ça permet d'essayer de prêcher la bonne parole, j'allais dire, de faire connaître la chose. Et ça, c'est vachement important pour nous, en tout cas. Et puis si ça fait une chouette émission pour une radio aussi chouette que Mistral, c'est très très bien, hein. Non, nous, on en est très contents, hein, en tout cas.
C'est une chouette émission. Il y a une sorte de tradition, de lien comme ça, sempiternel, entre la radio associative et le blues, non?
Je crois, oui, oui.
Des radios blues.
Il y a un réseau, oui, bien sûr, heureusement. Il y a un réseau des associations de blues, il y a un réseau des radios de blues, et heureusement, parce que le blues, c'est quelque chose qui est plus très à la mode, parce que les jeunes, on leur fait écouter, on les oblige à écouter un peu, je parle pas forcément de rap là, hein, mais on les oblige à écouter un peu n'importe quoi sur les radios qu'on les oblige à écouter. Hélas, hein, tu me parlais de Skyrock tout à l'heure,
ouais.
Ça, ouais. voilà.
Il n'est plus rock.
Voilà, les radios commerciales, bah, elles bouffent toute la place, et bah voilà, les jeunes, ils écoutent plus que certaines choses qu'on veut bien leur donner à écouter. Et voilà, c'est un peu le contraire de ce qui s'est passé à la naissance des radios libres. On pouvait tout écouter, mais maintenant, hélas, c'est pas toujours le cas. Donc nous, on essaie de passer par là, quoi. Très modestement, bien entendu.
Avec tout de même une présence permanente sur l'actualité du blues, du jazz. Toutes les semaines, vous nous amenez des nouveautés.
Il faut bien faire vivre la chose, non? sinon, on aurait arrêté depuis très longtemps si on n'était pas passionné et si on n'avait pas suffisamment creusé le truc pour pouvoir en sortir des pépites. Ma foi, on aurait arrêté depuis longtemps. Mais je crois pas que ce soit encore le cas qu'on puisse s'arrêter, à moins que tu nous vires, bien sûr.
Jamais de la vie.
Alors, il y a juste, si vous permettez, Thierry, juste une chose pour ce qui est de Eden District Blues, qui est une émission de blues, certes, mais cette bande de copains, vous avez compris que c'était une bande de copains qui adorait cette musique. Au départ, ils organisent des concerts magnifiques à Oraison, dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui est une capitale du blues en France,
on le sait bien. Voilà, tu peux le dire, c'est bien.
C'est vrai que moi, ayant de temps en temps traîné mes oreilles vers Oraison, j'ai dit, tiens, peut-être que ces gens-là seraient intéressés par la radio. Et l'émission radio est devenue un appelant aussi pour vos concerts, et les concerts sont aussi un appelant pour la radio. Et donc, tout le monde est content. Absolument. et c'est très important, quoi, parce que bon, ça fait vivre le territoire. Donc on revient aux premières interventions de l'existence de la radio, et donc là on a une équipe qui est une équipe magnifique, qui propose des concerts que personne d'autre ne propose dans notre région. Je sais pas comment ils se débrouillent pour faire venir certains musiciens, mais bon, ils se débrouillent.
On est malins.
Ils arrivent. Oui, les Jeff Zima, par exemple, bon, il fallait faire, quoi. Il y a des tas de gens qui sont passés à Oraison, et qui s'en souviennent.
Et qui sont devenus nos amis, d'ailleurs.
Exactement. Et j'espère que ça va revenir, les concerts. Voilà une information importante, Christian. Quand est-ce que ça va revenir?
Certainement en octobre. Bon, on sera pas sur Oraison. On sera plus vers Pierre Vert, par là. Je sais plus. Il y a un théâtre. Et on devrait le faire dans ce théâtre-là.
D'accord. Donc on a quand même une bonne nouvelle, là. Ça ne va durer encore que 4 ou 5 mois.
J'espère.
C'est ça.
Un petit mot, Christian, peut-être sur l'association Eden District Blues.
Moi, on a été créé en 2002. Au départ, on savait pas trop où on allait, mais bon, voilà. Bah justement, notre premier concert, c'était Jazzy Mad, puisque tu l'as dit, qui est devenu un ami, qui est venu 3 ou 4 fois sur la scène de l'Eden. Et on est parti avec 150-200 spectateurs, et puis on est arrivé à refuser du monde, 450 spectateurs. Des gens venaient nous voir de Nice, de Gap, mais ça c'est des habitués maintenant, d'un peu partout dans la région, vraiment, ouais. Oui, d'Avignon, et bon, voilà. Alors il y a eu la crise américaine là, qui a fait descendre le nombre de spectateurs. Mais enfin bon, on est à 250 spectateurs, et 250 spectateurs dans le département, c'est énorme, non? Pour qui connaît un peu le département, en tout cas. Et en plus, ce ne sont pas des spectateurs, ce sont vraiment des amis, ce sont des gens qui viennent aussi pour l'ambiance du spectacle.
Alors, comme nous sommes écoutés un petit peu partout dans la région, reprécisons que nous sommes à Manosque, donc c'est le département 04 dont nous parlons.
Absolument.
Absolument. Et alors, Christian, justement, vous parliez de l'écoute des jeunes d'aujourd'hui. Ça tombe bien, ça c'est un petit peu la spécialité de Manoa. Manoa, vous nous avez préparé une petite analyse là sur aujourd'hui. C'est quoi la radio? Comment les jeunes la reçoivent-elles? Quelle perspective?
Oui, c'est bien ça, Thierry. Eh bien, pour le savoir, je me suis rendue à Manosque lundi pour prendre le pouls de la relation entre les jeunes et la radio. Eh bien, ça va pas fort, hein, désolé. D'un côté, on a des moins jeunes qui croient en l'avenir de la radio.
Moi, j'écoute la radio, oui.
Qu'est-ce que vous écoutez, principalement?
Le matin, France Inter ou alors RMC.
Et qu'est-ce que vous avez à souhaiter pour les 100 ans de la radio?
Ah ben que ça continue.
Ouais.
On a besoin de la radio pour être au courant. Et puis voilà, c'est un moyen qui n'est pas cher, puisque tout le monde peut l'écouter. On peut l'écouter n'importe où.
Et d'un autre côté, on a la nouvelle génération qui se détourne de la radio. Cette année, c'est les 100 ans de la radio, donc c'est un peu un anniversaire spécial pour nous aussi. Je voulais savoir un peu avoir votre avis sur la radio aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous en écoutez de la radio?
Non.
Non, c'est les grands-parents.
Dans la voiture.
Ouais.
Pas trop, j'écoute pas trop la radio, mais...
Non, à la voiture, si.
Ouais, dans la voiture.
La radio, mais sinon, de moi-même, non.
C'est très rare, je crois.
Est-ce que vous voyez un avenir pour la radio aujourd'hui?
Non.
Alors, non. Franchement, honnêtement, non.
Bah, moi, perso, je trouve que ça s'arrête un petit peu en ce moment. Donc.
Mais alors, pourquoi les jeunes ne sont-ils pas adeptes de la radio? La réponse est bien simple, hein. La magie d'Internet et des plateformes musicales à la demande telles que Deezer ou bien Spotify ont tout bonnement rendu la radio inutile aux yeux des jeunes.
Genre maintenant, il y a Spotify, Deezer, tout ça.
Nous, comme on a le téléphone, on a Spotify, Deezer et tout, du coup, on écoute plus sur ça la musique.
Mais maintenant, avec Deezer, avec Spotify, ouais. Avec YouTube, pas trop.
Gratuite ou payante, ces plateformes proposent des offres de plus en plus nombreuses. La musique étant la première motivation des jeunes de l'écoute de la radio, ils préfèrent écouter leur propre musique, sans publicité ni coupure. Même si Skyrock, qui se détache par son contenu axé rap et R&B, est revenu souvent à mes oreilles, la concurrence est quand même très rude. Bon allez, faut pas se voiler la face, les plateformes offrent quand même pas mal d'avantages. Mais la radio, vieille de 100 ans, que peut-elle faire pour redonner l'envie aux jeunes de l'écouter? Parce que bon, c'est important de se rendre compte du poids colossal qu'ont les plateformes musicales. Maintenant, faut passer à l'action. Bon, déjà alors, dans un premier temps, parlons des podcasts. Certes, ça marche bien, 14% des Français écoutent des podcasts chaque semaine. Les plus gros podcasts sont téléchargés des millions de fois et des studios dédiés se sont créés ces dernières années. Le plus de ce contenu audio, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Des courts, des longs, des histoires racontées ou bien utiles pour parfaire son anglais ou sa culture générale, par exemple. Chez Apple Podcast, les médias traditionnels remportent la mise haut la main. Affaires sensibles, émission de France Inter est en haut du classement. Elle est suivie par des producteurs, par des productions France Culture comme Les Chemins de la Philosophie, Les Pieds sur Terre et Le Cours de l'Histoire. Donc, on l'aura compris, les podcasts représente un moyen pour les radios de participer au combat, car ça marche bien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il s'agit d'un modèle économique quasi inexistant. Les offres payantes telles que Magellan ou Boxon ont complètement échoué. Les studios fonctionnent grâce au brand content, c'est-à-dire le contenu de marque. Bref, en réalité, assez peu de personnes vivent concrètement du podcast. Deuxième stratégie, le lancement d'un Netflix de l'audio, c'est-à-dire une plateforme commune aux radios pour garder la main face à des géants tels que Spotify ou YouTube. Ça a été annoncé en 2020 avec, entre autres, Radio France, le groupe Lagardère News, c'est-à-dire Europe 1 RFM, le groupe M6 aussi avec RTL Fun Radio, qui ont annoncé la création d'une société commune afin d'offrir une interface digitale simple et gratuite permettant d'écouter l'ensemble de leur programme radio et contenu audio sur les différents appareils numériques. Cette plateforme commune s'appelle donc Radio Player France et a été lancée le 8 avril dernier. Il s'agit d'un service qui est accessible gratuitement sur le web et via l'univers applicatif. Elle regroupe 200 radios, 600 web radios et des milliers de podcasts. On ne sait pas encore si ça marche bien, c'est encore trop tôt pour le dire, mais bon, on croise les doigts. Alors voilà, il nous reste plus qu'à souhaiter à la radio un joyeux anniversaire. Malgré des hauts et des bas aujourd'hui, surtout avec les jeunes, on espère qu'elle va continuer à se réinventer pour les attirer. Continuer aussi à se battre face à ces plateformes mastodontes pour ainsi vivre, ou plutôt survivre, encore très longtemps.
Ben, merci beaucoup Manoa, vous venez de créer et de susciter la première vague de suicide collectif dans Fréquence Mistral depuis 1983, c'est merveilleux. Non, la radio a encore de beaux jours devant elle, moi j'en suis persuadé, j'en suis d'autant plus persuadé que vous avez parlé de podcast, elle a peut-être des jours différents à vivre, mais en tout cas le son, l'audio a toujours, à mon avis, quelque chose à faire. Et alors avec différentes solutions qui vont se poser sur le numérique, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, je crois que plus de 80% de l'écoute radio en France se passe dans la voiture. Dans la voiture, on est un petit peu prisonnier de son autoradio. Quand on est dans les embouteillages ou ailleurs, bah, tout ce qu'on a à faire, c'est d'écouter la radio. C'est un bonheur pour les radios. Mais aujourd'hui, les voitures vous proposent des ordinateurs de bord où la radio devient une fonctionnalité parmi d'autres, où c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Et alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va écouter la radio? Est-ce qu'on va plutôt brancher son téléphone, écouter la même musique que d'habitude qu'on écoute toujours? Alors, il faut des solutions. Les solutions, Manoa vient brillamment, et je répète, Manoa étant la stagiaire en première année d'école de journalisme. Merci encore. Et vous venez de parler de Radio Player France. Et alors, quand on parle de Radio Player France, aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas ne pas donner la parole à notre interlocuteur sur Zoom, Emmanuel Boutrin, qui, en tant que président du syndicat national des radios libres, a beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié la question et se mouille un petit peu sur cette question tantinet délicate aujourd'hui.
Alors d'abord, votre analyse est excellente. Et vraiment, je suis scotché. Parce que vous avez résumé pour les auditrices et les auditeurs de Fréquence Mistral la problématique actuelle. C'est vrai qu'il y a une baisse générale, relative, mais significative, de l'écoute de la radio. Je parle de toutes les radios. 2 millions d'auditeurs en moins depuis le début de la pandémie. Ça fait beaucoup. Alors, c'est pas nous qui sommes les plus touchés. C'est pas les radios associatives qui sont les plus touchées, mais nous sommes également impactés. Et vous avez très bien traduit l'attitude, notamment des plus jeunes générations qui, en effet, peuvent être amenées à se détourner de ce média parce que c'est une habitude dans la maison ou dans la voiture. Ben, on va plutôt écouter sa musique, la musique qu'on a envie d'entendre. Et de plus en plus, vous l'avez souligné, il y a un certain succès des podcasts. Mais il faut savoir une chose, et vous l'avez très bien dit, c'est que ce sont les podcasts subventionnés qui, finalement, relèvent d'un vrai modèle économique, parce que, et ceux de Radio France, du groupe Radio France et de France Télévisions, c'est d'ailleurs, ou de Arte, sont en effet accessibles sur le net et il y a des gens qui sont payés pour les faire. C'est d'une très grande qualité. Je tiens à dire qu'il y a également des podcasts produits par des radios associatives qui sont de très grande qualité. Mais pour les commerciaux, il n'y a pas de modèle économique. Vous l'avez très bien soulevé. Alors, ça, c'est une chose. Ça, c'est le changement d'usage. Bah, faisons le pari que, comme pour la presse écrite, la radio en tant que telle, le média radio, quel que soit le support, avec cette convivialité à l'antenne, les rôles dont nous avons parlé tout à l'heure, perdurera, on peut faire ce pari, et en tout cas, c'est celui que nous devons faire. Maintenant, il y a autre chose. C'est la plateforme dont vous avez parlé, c'est Radio Player France. Alors, Radio Player France, l'idée, c'est assez génial, c'est de permettre, notamment en mobilité, c'est-à-dire dans la voiture, le fait de pouvoir écouter la même radio où que l'on soit. C'est-à-dire qu'on ne la capte plus, ni en modulation de fréquence, ni en DAB, puisque maintenant c'est la radio numérique, et même bim, bam, boum, ça bascule sur ce qu'on appelle le linéaire, c'est-à-dire l'IP, c'est-à-dire le web, et avec, en effet, la 4G et la 5G, là où ça arrive et où ça arrivera, il y aura j'allais dire, suffisamment de ressources hertziennes pour capter partout l'IP, c'est-à-dire Internet. Et l'idée de Radio Player France est assez géniale, c'est de dire, ça bascule automatiquement. Le seul souci, c'est que les radios associatives, donc c'est le seul souci, ce sera pour les auditrices et les auditeurs des radios associatives, dont ceux de Fréquence et ceux de Fréquence Mistral, c'est que sur la console, vous savez, c'est sur les voitures modernes, il y a la console, on fait défiler l'écran et on tombe sur sa radio préférée. Eh bien, Radio Player France n'a pas prévu d'intégrer les radios locales et notamment associatives en premier choix, dans les premiers choix de la console où on va aller choisir sa station préférée. Donc, on est très, très ennuyé sur Radio Player, parce que les gens qui ont finalement fondé Radio Player ont refusé d'abord, il faut le savoir, à ce que les radios associatives puissent y être intégrées. Je parle dans la société, dans la gouvernance, pas évidemment comme abonnés, mais sur la société. D'abord, c'est pas gratuit pour les radios associatives, il faut le savoir, ni pour les radios commerciales, c'est même assez cher. Et ensuite, ils n'ont pas prévu donc d'intégrer les radios associatives, et ils n'ont pas prévu de faire en sorte que les radios locales, quand on est à Château-Arnoux, à Sisteron, à Manosque, eh bien, les radios locales soient accessibles pour le conducteur ou pour les passagers de la voiture en premier sur la console, sur le menu de la, le menu déroulant de la console de l'autoradio, finalement. Voilà. Et ça, ça nous ennuie. Alors, on est en train de voir. Alors, il n'y a pas que Radio Player. C'est pour ça que je suis un petit peu sceptique sur le succès de cette application. D'abord, il y en a eu une il y a 4 ans qui s'appelait Direct Radio. Ben, vous pouvez regarder, il n'y a plus personne sur Direct Radio. Il doit y avoir 4 auditeurs par jour hein, au plan national. Donc déjà, voilà, j'ai un petit peu de soucis sur le succès de cette opération. Et puis ensuite, il y en a d'autres. Et il y en a d'autres, il y a d'autres plateformes qui sont peut-être adossées. Il faut savoir défricher les choses, il faut savoir aussi aller de l'avant, il faut aller défendre nos positions, qui sont peut-être adossées à des grandes plateformes. Et qui peut-être pour moins cher pourrait permettre d'identifier les radios de proximité, les radios associatives, les radios sans pub par exemple, sur puisque nous avons notre modèle économique sans trop de publicité, vous le savez, donc on peut continuer des siècles comme ça si on le voulait, pour que les auditrices et les auditeurs puissent finalement identifier certaines radios ou leurs radios associatives préférées sur ces consoles. Donc, pour tout ça, pour dire que oui à la modernité, et les radios associatives ont toujours été à la pointe de la modernité. Regardez, en 81 et même avant, et nous avons fait la richesse du paysage en AFM. Sinon, si on n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu grand monde. Mais avec beaucoup d'attention et toujours au service des auditrices et des auditeurs.
Merci infiniment Emmanuel pour cette analyse. François, vous vouliez rajouter aussi quelque chose ?
Oui, il est évident que je ne sais pas actuellement si on parle vraiment de radio, mais en tout cas on parle d'argent. Et ça c'est quand même le nerf de la guerre. Tout à l'heure Maëva a fait une brillante intervention. On n'a pas parlé de musique, mais d'industrie musicale. C'est différent, c'est un petit peu différent. Donc où est-ce qu'on va découvrir de la musique ? Ailleurs que sur les radios associatives, je ne suis pas sûr qu'on va découvrir des chanteurs émergents qui ne sont pas poussés par des maisons de disques et notamment des majors sur les grandes radios commerciales, puisque bon, elles sont là pour faire du pognon, hein, pas pour faire découvrir des musiciens ou des poètes, des hommes de lettres, etc. Non. Et nous, notre approche, elle est différente. Elle est différente. On est confronté à une modernité qui est en train de nous bousculer, hein, on l'a bien entendu avec l'intervention d'Emmanuel Boutrin, mais en tout cas il faut qu'on arrive à rester dans ses fondamentaux, c'est-à-dire que imaginez un Brassens en 2021, mais où est-ce qu'on l'entendrait ce Brassens, hein? Je vous laisse trouver la solution, si c'est sur Skyrock, si c'est sur RMC, ou c'est sur M6, ou Énergie, voilà, par exemple. Imaginez un instant un homme de lettres qui a envie de s'exprimer et de dire des choses très puissantes, mais qui n'est pas connu, ou alors un musicien qui ne sait pas danser. Non, mais vous imaginez Brassens entouré de Brassensettes, vous voyez ce que je veux dire, enfin, en train de danser parce que c'est bon pour M6, ça c'est super. Ou alors faire des émissions stupides où on découvre quelqu'un qui chantonne un petit peu, et alors qu'on oublie que chanter, ça s'apprend, ça se travaille. On va dans un conservatoire s'il le faut, on transpire quand on joue d'un instrument de musique, mais ça c'est pas la peine quand je veux pas donner de nom, mais quand je vois un jeune chanteur à la mode qui trafique une guitare et qui joue un peu n'importe comment et qui s'assoit n'importe comment, si vous voyez de qui je veux parler, c'est déprimant.
Beaucoup, non ?
C'est déprimant, trop, oui, en trop. Plus c'est ça, et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, alors qu'on a une scène avec des musiciens importants, des créateurs qui sont des créateurs de génie. On en reçoit de temps en temps ici même aux correspondances de Manosque. Ils en reçoivent à Oraison avec leur festival de blues, par exemple. Et ça va nous manquer, donc il va falloir résister. Et effectivement, la radio est un outil de résistance aussi. Donc, il faut faire attention à ce ce qu'on veut nous faire ingurgiter, et c'est peut-être un des défauts des générations montantes, peut-être de faire attention à ça, et nous de pas passer pour des vieux abrutis non plus en disant mais attends, est-ce que t'as écouté, là on parle d'un biopic qui vient de sortir sur Billie Holiday, mais il faut écouter Billie Holiday, il faut pleurer sur Billie Holiday, et là on se dit tiens, je suis un homme, je suis un être humain capable de réaction. Bon, Andrade chante très bien aussi, heureusement, c'est la chanteuse qui interprète Billie Holiday dans ce film. Mais bon, quelle est la radio qui diffuse Billie Holiday, à part Fréquence Mistral lors de Combo Jazz, par exemple? Est-ce qu'il y a des radios qui diffusent la vraie Billie Holiday, enfin celle qui moi, me transporte?
France Musique,
peut-être un peu.
Chez nos collègues de radio associative, oui, très certainement. Sur oui, France Musique, parfois.
Heureusement.
Sans aucun doute. Et alors, par contre, il ne faut pas en vouloir à Manuel. Elle n'a fait qu'une étude d'une analyse de tendance.
Et c'est très bien, c'est très bien vu. Hein. Très bien vu.
Voilà. Mais en tout cas, en vous entendant, François, on comprend tout de suite, enfin, dans ce cri du cœur, finalement, que vous venez de faire, qu'on comprend toute l'identité de Fréquence Mistral et son rapport à la musique, qui est vraiment un rapport extrêmement important. On va essayer de terminer, justement, cette émission en parlant un petit peu de tout ça. Justement, vision moderne, vision dans prospective, on se projette, on va vers l'avant. Manoa, merci beaucoup pour cette vraiment très brillante analyse, et j'aimerais qu'on entende un petit peu la vision. Il y a quelqu'un dans l'équipe de Fréquence Mistral qui s'appelle Antoine Dufour, qui est un acteur très, très, très actif, très dynamique, j'allais dire, du média associatif et participatif en général, qui a rejoint la radio il y a quelques temps. Il a des vision extrêmement intéressante sur nos territoires, sur nos médias. J'aimerais qu'on l'entende une petite minute.
Bonjour Antoine Dufour. Alors pour vous, qu'est-ce que la radio libre aujourd'hui ?
La radio libre, c'est une belle invention qui a été faite il y a 40 ans. C'est une invention tout à fait originale parce que elle permet vraiment de rentrer dans une expression de territoire. Elle permet de faire participer des habitants. Elle permet de montrer des choses qui ne sont pas liées à des aspects commerciaux de vente, ce qui permet à un moment donné d'avoir une parole citoyenne, d'avoir une vision de développement local, une vision de valorisation des initiatives locales. C'est une très belle invention, peut-être pas suffisamment encore exploitée aujourd'hui. Et alors, presque du numérique, c'est un cadeau qui nous est réitéré à cette occasion du 40e anniversaire, parce que c'est une manière aujourd'hui de réinvestir un champ qui est la proximité. Faire de la radio aujourd'hui, ça intéresse tout le monde, ça intéresse les jeunes générations, ça intéresse les collectivités locales, ça intéresse les acteurs de proximité, les petites et moyennes entreprises. C'est un très beau lieu où on fait ensemble, donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas simplement fabriqué dans des studios en dehors de toute réalité, c'est fait avec les acteurs, c'est interviewé tous les jours, les micros, les enregistreurs vont se promener dans la Provence pour aller cueillir, récolter la parole des personnes. Et puis, c'est aussi un outil technologique, parce qu'avec l'arrivée du DAB+, c'est vraiment un outil technologique qui permet d'améliorer la qualité et puis de rentrer dans des nouvelles opérationnalités de territoire plus larges, plus grandes et compatibles avec tous les nouveaux outils numériques.
Voilà, et là, ben Antoine Dufour vient de synthétiser un petit peu tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui avec Fréquence Mistral, que beaucoup d'autres radios associatives sans doute ont envie de faire. C'est-à-dire que depuis 1981, certes, la radio a beaucoup évolué en termes de technologie, en termes de beaucoup de choses, et en même temps, vous l'avez entendu tout au long de cette émission, les principes fondamentaux restent là et doivent rester là, dans des territoires qui sont aujourd'hui aussi renouvelés, contemporains. Nous devons nous adapter, bien entendu. Alors nous adaptons nos grilles de programme, nous adaptons nos manières de faire, mais dans tout état de cause, effectivement, quel que soit le domaine, toujours sous cet angle de défense de l'intérêt général et de participation à la vie locale au plus proche possible. Participation de telle manière, parce que nous informons, parce que nous communiquons avec les acteurs locaux, parce que nous sommes là pour leur promotion, et puis aussi avec une attention toujours plus poussée, toujours pas aussi poussée en tout cas que ce que disait François tout à l'heure sur la musique, sur les scènes actuelles. Fréquence Mistral, alors c'est ce que disait François, c'est Eden District Blues, c'est Combo Jazz, c'est aussi de la musique qui passe très 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 régulièrement sur l'antenne. Vous pouvez écouter toute la journée, vous n'aurez, ce que disait François, que de la musique de qualité. On n'entend pas forcément les tubes commerciaux chez nous. Et puis on a aussi d'autres types de musique qu'on peut aller voir sur rendez-vous. On a Paul Léger qui nous fait une merveilleuse émission d'accordéon tous les week-ends que vous pouvez retrouver le samedi matin à 10h et qui retrace toute l'histoire de l'accordéon, tous les styles du musetto rock qui est une émission merveilleuse, pardon. Et puis il y a tout ce travail du quotidien de tous les salariés de Fréquence Mistral, avec des partenariats avec des labels indépendants, avec des artistes locaux, avec des artistes émergents, avec une orientation toujours poussée vers ce qui n'est pas connu mais vers ce qui est bon. Et ça, ce sera notre mission de toujours, et c'est comme ça que la radio perdurera, où qu'on soit, sur le web, sur les ondes, sur le DAB ou sur le FM. C'est en faisant bien ce travail là que cela continuera. Et alors, il nous reste 2 minutes. Alors, pour illustrer tout ça avec Mathieu, avec Marisa, nous avons prévu une petite musique. Avant de nous quitter, et si vous en êtes tous d'accord, j'aimerais juste remercier l'ensemble des personnes qui a contribué à cette émission, un petit peu à l'arrache. Merci à tous de l'avoir préparé ainsi. Mais en tout cas, déjà, autour de la table, François, Manoa, Jalil, Christian, Mathieu, merci infiniment pour cette régie magique. Manu qui nous a aidé à la mettre en place. À Marseille, Marisa avec Emmanuel Boutrin. À Marseille, toujours, bienvenue, c'est l'occasion, l'interview que vous venez d'entendre d'Antoine Dufour, c'est l'œuvre de Colline Jutet qui vient de rejoindre l'équipe il y a 2 jours. Et je voudrais dire encore un merci particulier à Chris Alessandri de Sisteron, à qui on doit les 2 très belles interviews de Patrice Vernet et de Daniel Spagnou tout à l'heure. Et je tiens à vous saluer tous en vous remerciant, saluer toutes et tous derrière vos transistors, dans vos voitures, peut-être sur le DAB, même quelque part autour de Marseille ou de Nice. Qui sait ? En tout cas, merci à vous. Continuez d'écouter la radio pour la qualité de sa musique, de ses informations. Et merci de nous avoir suivis tout ce midi.
À préciser que le coup de cœur que nous allons écouter est proposé par James, animateur du magazine du midi, le lundi et mardi, que vous retrouverez lundi prochain d'ailleurs.
Et ce coup de cœur, c'est ?
C'est, ouf, mon anglais est très mauvais, l'âme du printemps, voilà, je vous la fais en traduit en français.
Et de qui ?
De Don Gilles.
Alors ça, c'est important, Mathieu. Oui, de Don Gilles. Alors non, juste avant de vous quitter, on peut pas vous quitter. Regardez, il y a Christian, là, il est en train de devenir tout rouge et se transformer en Hulk. De parler de Don Gilles sans en dire un mot. Don Gilles, il habite pas loin d'ici. Alors moi, je vais juste vous le raconter sous l'angle personnel, très vite. Il y a 15 jours de ça, 3 semaines, je crois, j'arrive à la radio le lundi matin, je ne m'attends à rien, je croise James Fontaine, notre animateur du lundi et du mardi, qui est avec quelqu'un, qui a un chapeau sur la tête, me dit, tiens, voilà, il y a quelqu'un là. Voilà, et James se dit, tiens, je te présente Don Bilias. Enfin, non, il ne m'a pas dit Don Bilias, il m'a dit son vrai nom. Et. Ah, c'est Don Bilias. D'accord. Alors, Don Bilias, juste là où on déborde, mais quand même, c'est pas rien. Don Bilias, il a commencé sa carrière. Les saxophonistes, il a commencé sa carrière, c'est Nino Ferrer qui l'a fait commencer. Et puis après Nino Ferrer, il a joué avec Turricunda. Si quelqu'un se souvient des morceaux de saxo sur Turricunda, c'est inoubliable, ça, c'est Don Bilias. Don Bilias, c'est aussi Bachoum, c'est aussi Paul Persson. Et c'est depuis une petite dizaine d'années une carrière solo avec une musique. Là encore, François, vous avez raison, on ne l'entend pas sur les radios commerciales. Par contre, on peut l'entendre à Fréquence Mistral, on peut même parfois le croiser en train de boire le café là-bas dans la cuisine, et on va l'écouter tout de suite, vous allez voir, ça vaut le coup, vraiment.
Nouveauté Fréquence Mistral, l'âme du printemps, c'est le titre The Sweetness of Spring de Don Bilies, tiré de son dernier album Plein Soleil qui va sortir le 7 mai sur le label BS Prod.
Stare, see the sweetness of spring. Take a breath, smell the sweetness. Look, stare, see the sweetness of spring. Take a breath, smell the sweetness. Oh, sit, wind, feel the sweetness of spring. We'll be right back.
de ne rien dire. Écouter, voir, sentir, ne rien faire sourire. Se fondre dans la beauté de la fleur qui naît. S'envoler par-dessus les monts, vouloir être l'oiseau, devenir papillon. Redevenir la femme, l'homme, l'enfant. Partir à la rencontre des âmes du ciel. Abandonner sa raison pour d'autres horizons. Chasser ce moment doux où l'esprit prend l'espace où l'espèce est esprit. Au loin là-bas il y a la mer et puis ce petit air de printemps. Je suis vivant.
Sweetness of spring.